Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Carrément Immo. Vous le savez, Carrément Immo, c'est l'émission dans laquelle je reçois chaque semaine deux experts du secteur, deux acteurs complémentaires de premier plan. Aujourd'hui, on va s'intéresser au marché immobilier et puis au financement, un sujet brûlant pour les particuliers qui souhaitent acheter. Où en est-on en 2025? C'est ce que je vais voir avec mes deux invités. Sandrine Alonier, bonjour.
Bonjour Bérénice.
Porte-parole du courtier Vous Financez, Romain Odano, bonjour.
Bonjour Marianne.
Directeur réseau de Nestan Immobilier. Alors on va se poser la question des taux d'intérêt. Où en sont-ils? Se sont-ils stabilisés? Est-ce le bon moment pour acheter? Bon, même si je connais votre réponse. Voilà, on va essayer de décortiquer, d'argumenter en tout cas. Où en sont les prix aussi? Parce qu'on entend pas mal de choses, hein, des régions où ça se stabilise, d'autres où ça commence à remonter, d'autres où ça continue de baisser. Bref, on ne sait plus où on en est. Et puis, on verra aussi les leviers pour obtenir un crédit, avec notamment des nouvelles mesures qui ont été adoptées, des nouvelles lois. Et puis, on verra aussi comment bien négocier son achat. Bref, on décrypte la situation ensemble pour acheter un bien immobilier. Et on se penche tout de suite sur le marché immobilier. Alors Romain, je m'adresse à vous. Comment évolue le marché immobilier actuellement? Donc actuellement, c'est depuis janvier 2025. Qu'est-ce qu'on peut dire en fait de ce début d'année? Moi, j'entends que c'est plutôt pas mal.
C'est plutôt pas mal. On est sur une progression. Moi, je le regarde vis-à-vis de nos chiffres, en tout cas chez Nestan, qui sont cohérents avec les chiffres de nos confrères. Globalement, on est sur un mois de janvier qui a été amorcé avec une hausse du nombre de transactions par rapport à janvier 2024 de 25% chez nous. Et le mois de février, alors c'est tout récent, les statistiques datent de ce matin, suit exactement la même pente. Donc, et c'est cohérent en plus avec le nombre d'offres qui avaient été en progression sur la fin d'année chez nous, qui se sont transformées aujourd'hui en une hausse égalitaire sur le nombre de SSP, donc le nombre de compromis. Donc le marché immobilier semble repartir, en tout cas. Il faut toujours être prudent quand on le dit, mais on a des données qui le confirment, en tout cas. Des bonnes données. Et on parlera des prix ensuite, mais le marché est porté, on en parlera avec Sandrine, par des conditions de financement qui sont propices également à l'achat.
Et là, quand vous dites que ça repart, est-ce qu'on peut dire que c'est grosso modo sur toute la France? Est-ce que c'est partout pareil?
Alors, si on dit grosso modo, oui, on peut le dire. Clairement, on peut le dire. Il y a toujours une différence de marché régional. Et puis, il y a même des différences départementales, des différences jusqu'à presque communales. C'est très compliqué de parler du marché immobilier dans sa globalité. Oui. On est obligé de le faire. Globalement, il progresse. Quand on parlera des prix, on le verra tout à l'heure aussi, il y a une incidence qu'il faut toujours égaliser en fonction du prix au mètre carré également et des différents marchés. Donc, aujourd'hui, le marché immobilier repart partout. Il n'y a aucune ville qui serait épargnée par ce phénomène parce que les Français ont envie d'acheter, le manifestent, ils ont envie d'acheter sur le territoire national.
Alors Sandrine, justement, on parle des taux. C'est vrai qu'aujourd'hui déjà, est-ce que toutes les banques prêtent à nouveau?
Oui, ça fait maintenant plusieurs mois qu'elles prêtent toutes et qu'elles ont vraiment cette volonté de prêter. Et encore plus en ce début d'année 2025, puisque l'année 2024 a été vraiment en retrait. Hein. On a une baisse de la production de crédit de 15%, après déjà moins 30% l'année d'avant. Donc là, je dirais vraiment que les banques ont faim. Elles ont vraiment envie de prêter. Et il y a une preuve de ça, c'est qu'on a une banque nationale qui a le mois de février, on espère qu'elle va reconduire, fait une offre avec des taux à 2,99 sur toutes les durées et pour tous les profils. Donc on est repassé pour les banques les plus offensives sous les 3%. Donc ça, c'est un vrai bon signal qui peut déclencher les actes d'achat des attentistes. Là, ça peut débloquer psychologiquement des achats. Donc oui, les banques là sont toutes évidemment revenues. On a eu un petit coup de chaud quand même sur les taux.
Il y a deux, trois semaines.
Début du mois de février, parce qu'on avait eu cette instabilité politique, cette hausse des taux d'emprunt d'État. Donc quelques banques qui avaient remonté leurs taux. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que pour le mois de mars, elles les ont rebaissés. Donc on avait une banque nationale qui avait augmenté, là elle baisse. Donc elle a bien compris que si elle n'était pas dans le marché, finalement elle captait moins d'emprunteurs. Or là, on arrive dans la période du printemps de l'immobilier, la période la plus propice, et les banques ne veulent pas manquer ce créneau. Donc là vraiment, le slogan, c'est vraiment banque cherche emprunteurs quasiment à tout prix.
Oui, parce qu'en fait les banques, le crédit immobilier leur permet de capter des nouveaux clients en fait.
Voilà, tout à fait. C'est vraiment ça fait vraiment partie d'une stratégie commerciale de la part des banques. Et même si elles font des marges faibles sur le crédit, elles se rattrapent sur l'assurance de prêt, mais également sur tout l'équipement qu'elles vont pouvoir donner aux emprunteurs. Et c'est aussi pour ça qu'elles ciblent les primo-accédants, puisque c'est en début de vie financière qu'on va ensuite souscrire des assurances auto, un crédit, des livrets d'épargne pour les enfants qui vont naître, etc. Donc, il y a vraiment un intérêt pour les banques de prêter.
De 99, donc ça, c'est...
Ça, c'est l'offre promotionnelle.
Promotionnelle.
Mais sinon...
Grosso modo, sur chacune des durées.
Voilà, globalement, là, on est à 3% sur 15 ans, 3,2% sur 20 ans et 3,4% sur 25 ans. On est revenu au niveau de début 2023. Donc, il y a quand même une bonne partie de la hausse qui a été annulée. On ne reviendra pas à des taux à 1% comme en 2021.
Oui.
On peut penser que des taux à 3%, ce sont des taux d'équilibre sur le long terme. Et je pense que les emprunteurs l'ont bien compris. Et c'est aussi pour ça qu'ils passent à l'acte en ce moment.
Ça, c'est, vous confirmez ça, les emprunteurs l'ont compris, les potentiels acquéreurs?
Ils le comprennent, et surtout les banques, pour rebondir sur ce que dit Sandrine, communiquent. Les banques aujourd'hui cherchent activement effectivement des acheteurs. Les acheteurs le voient. Et les acheteurs consomment de l'immobilier. Nous, on le voit très bien sur les sites internet. Je me suis intéressé ce matin à notre site internet Nesten. Et pour le coup, il prend environ 10% de part d'audience sur les recherches d'agences immobilières. Donc on va dire que c'est une norme à peu près acceptable. Quand on regarde l'utilisateur moyen, par rapport à l'an dernier, il va passer plus de temps sur le site internet. Il va voir plus de pages. Et il va faire plus de demandes. De demandes sur les annonces, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il est finançable. C'est-à-dire que l'an dernier, l'utilisateur, et j'aime bien parler d'utilisateur, parce qu'on parle toujours de ce qui s'est passé depuis le début d'année, mais regarder le comportement de l'internaute sur Internet nous permet de comprendre le comportement du client demain, et notamment au printemps. Aujourd'hui, l'acheteur sait qu'il peut être financé, donc il a une démarche beaucoup plus proactive. Voilà la différence. Et effectivement, ça corrobore exactement.
Donc, il va plus en profondeur de ses recherches, quoi. Il passe plus de temps, vu qu'il sait que c'est possible.
Il demande de l'information. C'est une hausse également du nombre de demandes d'estimation, parce que un achat va entraîner souvent une vente. Et finalement, c'est un cercle vertueux. C'est une roue qui recommence à tourner. Et on sent un marché qui se dégrippe vraiment par rapport à ces conditions d'accessibilité au crédit, notamment.
On le constate aussi chez Vous Financer, où les mandats, donc c'est le document qu'on fait signer au client lorsqu'il fait sa recherche effective, sont une augmentation de 30% par rapport à l'année dernière. Donc là aussi, on est aligné dans les chiffres.
C'est cohérent.
Et donc voilà, ça montre que maintenant, les gens savent qu'ils peuvent emprunter, qu'ils peuvent acheter. Donc ça vient dépasser la simple simulation pour aller vers la démarche de recherche de crédit. Et du coup, ça va forcément aboutir sur des transactions après.
Donc là, on parle de propriétaires occupants, c'est-à-dire de Français qui cherchent à acheter pour leur résidence principale. Qu'en est-il des propriétaires bailleurs, donc de ces Français qui veulent acheter un bien immobilier dans le but de le mettre en location, hein, pour se faire... c'est un investissement, hein, faire un prêt, lever de la dette pour loger quelqu'un. Qu'en est-il de ces Français-là? Est-ce que vous constatez que les investisseurs, on dit souvent, on entend souvent qu'ils sont en train de partir? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils ont baissé?
Ils changent. Ce qui est certain, c'est que les investisseurs d'aujourd'hui ne sont pas similaires à ceux qu'ils étaient hier. Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a des investisseurs qui sont souvent un petit peu plus jeunes, pas souvent propriétaires justement de leur résidence principale, et qui vont faire de l'investissement ciblé. C'est-à-dire, je vais m'acheter une résidence secondaire, je vais la mettre en location, pourquoi pas saisonnière, et en profiter également. Donc il y a une logique aussi sociale, peut-être sociétale, à l'investissement locatif qui change et qui évolue, et qui ne va pas dans le sens de l'investissement locatif long terme. Ça, c'est une certitude. Il y a un vrai enjeu sur l'investissement locatif, et Valérie Létard en a parlé récemment, notamment par une lettre de mission autour de l'investissement locatif. C'est un vrai sujet parce que on assiste à une crise, tout le monde le dit, hein, une crise du logement, bien sûr, parce qu'on parle beaucoup d'immobilier, mais une crise du logement et notamment du marché de la location. Et le marché de la location, c'est un marché aujourd'hui où le propriétaire bailleur est taxé de façon multiple. Donc la question du financement est une question presque subsidiaire, entre guillemets, à l'investissement locatif, parce qu'il faut redonner aux Français la volonté d'acheter du locatif. Voilà mon analyse, en tout cas, et c'est ce qu'on ressent aujourd'hui chez Nesten, et je pense qu'on ressent ailleurs également.
Sandrine,
je suis complètement d'accord. En fait, le problème, c'est que c'est l'envie d'investir qui a disparu, puisque les investisseurs ne sont plus incités, voire même ils sont dissuadés.
Ça donne pas envie d'investir.
Alors que du côté des banques, ça y est, elles reprêtent également aux investisseurs, donc c'est leur dernière cible, hein, puisqu'on l'a dit, ce sont des gens parfois souvent déjà bancarisés, mais il n'empêche que ça y est, elles ont rouvert les vannes pour les investisseurs. Alors on peut emprunter sous Souvent, c'est sur 20 ans maximum, mais on peut emprunter sans apport, alors que pour la résidence principale, on va demander un apport plus systématique. Là, sur l'investissement locatif, elles sont...
Parce qu'ils prennent en considération les loyers, c'est ça ?
Oui, et puis surtout parce qu'il y a de l'épargne souvent par ailleurs, il y a déjà d'autres biens immobiliers qui peuvent servir, entre guillemets, de caution. Et les banques savent très bien que pour faire jouer au maximum l'effet levier du crédit, les investisseurs ne veulent pas mettre d'apport. Alors qu'en résidence principale, il faut démontrer sa capacité à avoir mis de l'argent de côté, même en remboursant un loyer, ce qui montre qu'on pourra quand même rembourser cette mensualité. Et en effet, elles prennent en compte les loyers, mais elles les prennent en compte de façon moins avantageuse qu'il y a quelques années, où avant c'était en calcul en différentiel. Enfin, c'est un peu technique, mais du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, le gros problème des investisseurs, quand ils sont déjà propriétaires, c'est l'endettement, puisqu'il est, il est limité à 35%. Et du coup, dès lors qu'on est déjà propriétaire de sa résidence principale, on va dépasser. Donc, les banques peuvent faire des exceptions.
Mais... Sur les bons profils ?
Sur les bons profils, sur leurs clients. Donc, c'est vrai que ça limite un peu. Mais sur le papier, sinon, elles n'ont plus fermé le robinet. Elles prêtent. Et du coup, on n'est plus dans un problème d'offre bancaire pour les investisseurs. On est vraiment dans un problème de demande. Voilà, parce qu'en effet, on l'a dit, ils n'y sont plus incités. Donc, il y a un vrai sujet sur comment les faire revenir, puisqu'on en a besoin pour rétablir tout le parcours résidentiel. On a besoin de gens qui achètent pour qu'ensuite, ils puissent louer derrière.
Et alors, concernant l'investissement locatif, justement, est-ce que les banques sont sensibles aux dossiers préparés ? On va dire que... Voilà, quelqu'un se présente, bon, il est déjà propriétaire de sa résidence principale, il veut faire un investissement locatif, il montre qu'il a fait, qu'il a un peu étudié le marché, qu'il a choisi un bien dans une zone où il y a une forte tension locative, bon, c'est le cas un peu partout en ce moment. Est-ce que la banque va être sensible à ça ? Est-ce que la banque va être sensible à...
Alors, elle va surtout être sensible à une chose, c'est le diagnostic de performance énergétique.
D'accord.
Puisque là, c'est un vrai sujet, et c'est aussi pour ça qu'il y a moins d'investisseurs et qu'il y a eu beaucoup de biens en vente, ce sont les biens F et G qui ne sont plus autorisés à la location et qui bénéficient d'une forte décote. Donc, on a des investisseurs qui veulent acheter ce type de biens pour ensuite les rénover. Ouais. Mais là, la banque va regarder le DPE et si le DPE n'est pas bon, il pourra y avoir soit un refus, soit les loyers ne seront pas pris en compte tant que le plan de financement des travaux ne sera pas intégré dans le prêt.
D'accord.
Donc, elles vont surtout regarder ça. Le risque pour les banques, il réside dans le mauvais DPE.
L'interdiction de la...
Pas
parce qu'il y a l'interdiction à
location. Locative.
D'accord.
Voilà. Ouais. Parce que de toute façon, elles savent très bien que le bien sera loué, donc c'est moins un sujet, sauf si le DPE est mauvais.
Et vous, concernant justement ces DPE, est-ce que j'imagine que ça pose problème aussi à...
Alors, ça pose problème, ça crée des opportunités. On le disait, on a des investisseurs plutôt opportunistes qui ont raison, qui rachètent ces appartements. Souvent, ce sont des appartements. Et nous, en tout cas, chez Nesten, ce qu'on a voulu faire, c'est déjà, il y a 2 ans, créer tout un parcours de rénovation du bâtiment. Parce que de toute façon, la loi climat et résilience est là. Le principe est plutôt vertueux. Les délais sont parfois critiquables, mais bon, là, on est là pour être constructif. Donc, le principe est vertueux. Ce qu'il faut, c'est arriver à accompagner nos propriétaires bailleurs vers la rénovation de leur logement, que ça soit dans une démarche de gestion ou que ça soit dans une démarche d'achat. Donc, est-ce que c'est problématique ? Pas forcément, c'est juste une histoire de vase communicant. C'est aussi simple que ça. Arriver à bien guider l'acheteur pour derrière avoir un bien qui soit rénové, qui rentre dans une logique de gestion locative et qui permette à quelqu'un de se loger. C'est pas un problème en soi, c'est un calendrier qui était peut-être un peu inadapté, mais voilà.
Totalement inadapté. Bon. Il y a des nouvelles mesures. Vous avez parlé de Valérie Létard, la ministre du Logement, qui a fait des annonces, c'est vrai, cette semaine concernant la mission pour un statut du bailleur privé. Il y a aussi il y a eu du changement concernant les mesures pour les propriétaires bailleurs. Alors, en attendant, les propriétaires tout court, pardon, en attendant le statut du propriétaire bailleur, on a déjà quelques mesures pour favoriser l'accession, surtout pour les primo-accédants. Il y a le PTZ, le prêt à taux zéro, qui a été élargi. Là, ça y est, donc les banques pourront proposer un PTZ à partir d'avril, c'est ça,
ouais,
Sandrine ?
C'est bien ça. Oui, donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est un bon signal, puisque ça montre que le gouvernement, qu'on a souvent taxé d'immophobe, redevient un peu pro-immobilier. Donc, même si tous les acheteurs ne vont pas être concernés par cet élargissement du prêt à taux zéro, il n'empêche que c'est vraiment une très bonne nouvelle, et puisque ça va montrer que le gouvernement fait des choses et que la période est propice à l'achat immobilier. Donc oui, il va être élargi sur tout le territoire, mais il est surtout avantageux dans le neuf, soit en achat collectif, soit en construction de maisons individuelles. Et ça, c'était plus le cas depuis avril 2024. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour les constructeurs, mais aussi pour les Français, dont le rêve est quand même d'acheter une maison, d'avoir son petit bout de jardin. En revanche, dans l'ancien, ça reste en zone détendue et sous conditions de travaux. Donc là-dessus, il n'y a pas de changement, alors que c'est quand même 80% du marché, l'ancien. Mais il n'empêche que ça peut avoir un effet positif et psychologiquement positif pour l'ensemble du marché. Or, vraiment, le psychologique a été un gros frein l'année dernière, en 2024. Donc, tout ce qui est bon à prendre, enfin, tout ce qui est pris est bon à prendre. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et il y a également le sujet des donations. Donc, c'est aussi pour un achat dans le neuf. Mais c'est normal, il y a cette vraie ambition du gouvernement de relancer la construction, puisque là, on a quand même atteint que 250 000
c'est
logements
la pire année, hein.
construits, la pire année, je crois, depuis 50 ans. Donc, c'est vertueux quand même de relancer la construction pour aussi faire des nouveaux logements qui pourront ensuite être loués, etc. Et là, donc là, on peut donner 100 000 euros par personne. Et du coup, on peut recevoir même jusqu'à 300 000 euros quand on est un primo-accédant et qu'on achète dans le neuf. Donc ça, ça va vraiment être un bon coup de pouce, parce que combiné avec le prêt à taux zéro, là, vraiment, enfin, on va pouvoir acheter à des équivalents de taux à 1%. Mmh. Donc, c'est vraiment très positif pour les primo-accédants.
Romain, vous qui êtes sur le terrain, est-ce que ces mesures vont, selon vous, débloquer certaines situations des acquéreurs que vous rencontrez au quotidien ?
Je partage à 100% l'analyse. Il y a un contexte psychologique. C'est-à-dire que le message est bon, on permet d'acheter. Le message a été entendu, je pense. Après, dans l'immobilier, nous, majoritairement, on travaille sur de l'immobilier considéré comme ancien. Alors, les donations, on entend aujourd'hui que ça serait accessible, donc l'élargissement à 300 000 euros par an, grand-parent, sur des biens immobiliers de moins de 5 ans. Donc, bien sûr que ça va débloquer des situations, c'est une certitude. Sur le PTZ, pour ce qui est de l'immobilier ancien, rien ne change. Donc, on peut avoir une attitude constructive, comme je le disais tout à l'heure, ou un petit peu moins. Si on veut être constructif, il faut se dire qu'il faut relancer de toute façon le secteur du bâtiment. Le secteur du bâtiment en France, il est important. Quand le bâtiment va, tout va, c'est ce qu'on dit généralement. Ça relance le logement, tout ça est vertueux et ça permet encore une fois de repartir sur des cycles plus positifs d'achat-revente, parce que les biens qui seront construits seront vendus, créeront évidemment de l'offre. Mmh. Concrètement, dans l'immobilier ancien, les donations, oui, le PTZ changera pas grand-chose. Oui. Mais on est là.
Alors, il est toujours accessible dans l'ancien, mais il faut faire des travaux. Hein. C'est ce que vous disiez, Sandrine.
Des travaux de rénovation énergétique.
Et c'est en zone détendue.
En zone détendue.
Finalement, pas là qu'il y a les plus gros besoins. C'est pas là.
Mais est-ce que ça va attirer ça, par exemple ? Parce que ça, c'est un objectif du gouvernement, c'est faire vivre ces villes totalement abandonnées par les Français. Il y a le programme Action Cœur de Ville 2 maintenant. C'est vrai que l'idée, c'est de faire venir des Français dans ces villes. Est-ce que ça va aider ce genre de mesure,
ce PTZ ? C'est censé.
Ouais, c'est censé. Est-ce que c'est efficace ?
Pas forcément, forcément. Je ne sais pas si on prend le problème par le bon bout sur l'immobilier ancien, en fait. Je pense qu'on a freiné à un moment donné une demande existante sur le prétexte de la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, on ne peut pas être contre, bien sûr. On n'a pas le droit de loger des Français dans des passoires énergétiques. Jusqu'à là, on est d'accord. Maintenant, il ne faut jamais oublier que l'immobilier le plus vertueux, le bâtiment le plus vertueux, c'est celui qui est déjà construit. Et on a tendance souvent à oublier l'immobilier ancien au profit de l'immobilier neuf. Ça se comprend encore une fois sur des logiques macroéconomiques. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Est-ce que les mesures pour relancer les ventes dans l'ancien fonctionnent depuis quelque temps ? Et est-ce qu'elles permettent de redynamiser les villes ? Pas forcément. Pas forcément. C'est plutôt les mesures liées notamment à l'implantation de nouveaux commerces qui vont permettre la redynamisation des villes et qui vont redonner envie
bien sûr.
Il y a très peu de communication sur le PTZ dans l'ancien, vous le remarquerez. Il y a beaucoup de communication sur le PTZ.
Oui, certains médias en parlent, nous on en parle par exemple.
Il y a très peu de communication, sans doute peu volontairement, mais parce que le concept est un petit peu plus complexe à comprendre et parce qu'il y a davantage de normes que sur l'immobilier neuf, tout simplement. Ouais. Mais tout ça reste honnêtement très, très positif et très bénéfique.
On va faire un petit point sur les prix. Alors, vous l'avez dit en début d'émission, il n'y a plus un marché global. En fait, il y a des micro-marchés. Là, vous disiez parfois, en fonction des quartiers, enfin, je vois quand on regarde les prix dans certaines villes, Lyon, Paris, ça change d'une rue à l'autre. Il y a des baisses et inversement des augmentations. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?
À ce sujet, il faut regarder la période sur laquelle on se base. Si on se base sur une période annuelle, on a, en tout cas chez Nesten, mais c'est confirmé également par les baromètres de nos confrères, on a une baisse des prix globales, mais qui s'est fortement ralentie jusqu'à une stabilisation là en ce début d'année. Si on regarde au trimestre, on voit que les appartements commencent à subir une petite hausse des prix. Et les maisons, parfois, dans certains secteurs, dans certaines régions, les prix commencent à augmenter aussi.
D'accord.
C'est ce qu'on constate. Après, encore une fois, il faut mesurer nos propos, parce que quand on parle de baisse ou d'augmentation en trimestre, on parle de 0,5%.
Mmh. Oui, bien sûr.
1%. Et 1% parfois à Paris...
C'est beaucoup.
C'est beaucoup. 1% en province, c'est un peu moins. Donc voilà.
Alors c'est vrai qu'on parle de ces taux qui ont baissé, c'est le risque. Quand les taux baissent, on sait que mécaniquement, les prix remontent, c'est ce qui...
Bah, tout à fait. En fait, tout simplement parce que avec la baisse des prix, ça augmente la capacité d'emprunt des acheteurs. Là, par exemple, par rapport à quand les taux étaient au plus haut, on était à 4,30. Aujourd'hui, je l'ai dit, on est à peu près à 3,20. Eh bien, un couple qui gagne 1 500 € par mois va pouvoir emprunter plus de 20 000 euros de plus qu'à cette époque-là. Donc, c'est beaucoup. Et forcément, les vendeurs le savent aussi un peu. Mais c'est aussi potentiellement que les biens qui se vendent actuellement sont aussi les biens de qualité. C'est pour ça qu'ils sont en moyenne un peu plus chers. Donc je pense que cette hausse des prix, il faut en effet la prendre avec prudence parce que comme les gens, les primo-accédants sont un peu resolvabilisés, ils visent des biens d'un peu plus grande qualité ou un peu plus grande taille. Et c'est pour ça qu'on voit des hausses de prix. Mais sinon, au cas par cas, les offres, enfin les biens se négocient encore tout simplement parce que les délais de vente restent élevés. Et tant que les délais de vente restent élevés et que les gens sont pressés de vendre, il y aura quand même des baisses de prix. Donc là, on est vraiment un peu à la croisée des chemins, mais c'est évidemment le rôle, c'est évidemment la baisse des taux qui a pu conduire à de nouveau un peu plus d'acheteurs, donc du coup, des vendeurs qui reprennent un peu plus le pouvoir aussi, qui ont le choix entre deux offres. Donc voilà. Mais on va évidemment pas se réjouir de hausse de prix, mais on peut se réjouir de ce dynamisme et du retour et des offres qui coïncident entre acheteurs et vendeurs.
Mmh. Pour terminer, vos conseils pour ces Français qui veulent acheter dans la pierre, acheter leur logement, quel conseil côté banque et puis quel conseil côté
alors,
agent immobilier?
Deux conseils parce qu'on en a pas parlé, mais il y a quand même les frais de notaire qui vont augmenter. Pas pour les primo-accédants, mais voilà, qui
pendant
vont augmenter.
Pendant 3 ans, hein.
Voilà,
0,2, 0,3 et 0,5.
Ouais. Donc là, il est encore temps, si je puis dire, d'y échapper. Donc ceux qui ont un projet qui est déjà mûr, autant essayer de le finaliser un peu avant le mois de juin pour économiser cette hausse des frais de notaire, qui ne représente pas des grosses sommes, mais quand même, c'est 1 000 euros pour un achat à 200 000. Et le deuxième conseil, on parle du retour du prêt à taux zéro qui n'est pas forcément amélioré dans l'ancien, mais chaque banque propose son propre prêt bonifié. Donc, c'est-à-dire que si on achète, ça peut être une passoire qu'on veut rénover, on peut avoir une décote sur le taux du crédit. Si on achète un bien et qu'on est primo-accédant, on peut avoir 20 000 euros à 0%, même si on n'a pas le prêt à taux zéro. Donc, bien se renseigner, bien faire le tour des banques. Il y a encore des écarts de taux, il y a des écarts de conditions avec ces prêts à taux bonifiés. Donc, vraiment mettre les banques en concurrence.
Mmh. Et côté agent immo, Romain?
C'est très simple. Le conseil, il est assez banal, mais si vous pouvez acheter aujourd'hui, achetez aujourd'hui.
Vous n'allez pas me dire le contraire.
Non, mais parce que là, c'est important d'expliquer pourquoi.
Ouais.
Effectivement, il y a le jeu des banques, et puis il y a aujourd'hui un mécanisme très simple entre des prix qui, globalement, on l'a dit, sur 2 ans, ont chuté, et des taux qui sont stabilisés. Quand on achète, on a besoin de stabilité. Moi, que les taux restent aux alentours de 3%, ça me va bien. Mmh. Parce que dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est de la stabilité. Donc, on a des taux qui sont relativement bas, en tout cas, qui sont descendus. On a des prix de vente qui sont plus bas qu'il y a 2 ans. On a un pouvoir d'achat immobilier qui est 11% supérieur à celui qu'il y était il y a 24 mois. Mine de rien, ça, on ne le dit pas assez. Donc, il faut acheter. Effectivement, la hausse des frais de notaire n'est pas encore promulguée. Donc, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir accéder à l'achat. Et je dirais aussi, faites-vous accompagner par un bon courtier, faites-vous accompagner par un bon agent immobilier, parce qu'on parlait tout à l'heure des marges de négociation. Les marges de négociation, nous constatons, elles sont d'environ 6% encore. 6% d'un prix de vente, c'est important. Quand on parle de hausse parfois de 0,5, il faut la pondérer avec des négociations parfois sur les prix affichés de 6% en moyenne. Donc il faut être bien accompagné, bien entouré par des professionnels de qualité et acheter, si on peut...
Ah, c'est vrai que seul, on a moins de poids.
On a moins de poids et notamment niveau bancaire. Hein.
Et on oublie que juridique. Lorsqu'on rembourse une mensualité de 1 500 €, même avec des taux à 3%, c'est quand même 1 100 € de côté qui sont amortis. C'est de l'épargne contrainte et 1 100 € qui vont être amortis contre un loyer, évidemment, sera à fond perdu, même s'il y a quand même la taxe foncière, etc. Mais donc, du coup, plus tôt on achète, plus tôt on rentre dans le processus d'accès à la propriété et plus on va, évidemment, pouvoir constituer son patrimoine.
Voilà, devenir propriétaire, c'est important. Merci beaucoup à vous deux pour cette émission. Nous, on se retrouve dans un prochain numéro de Carrément Immo très bientôt. À tout de suite. À très vite.